Madame.
Vous pouvez revenir à vos places. Nous allons donc maintenant accorder la parole à Monsieur Stephen Crocker, président du conseil d'administration de l'ICANN. Bonjour, encore une fois. Je peux dire que le discours que nous venons d'entendre est un discours merveilleux. Qui se trouvent parmi nous, qui avons eu l'occasion ou parfois l'obligation de prononcer des discours, nous disons, comme on peut s'y attendre, un bon nombre de choses importantes, mais ce discours a eu un contenu très important et c'est l'un des discours que nous allons garder notre mémoire partout dans le monde, parce que c'était justement un discours excellent à beaucoup d'égards et bien sûr difficile à imiter. Par hasard et pour des questions liées au temps, j'ai le plaisir de travailler sur un réseau du projet ARPANET. J'ai eu l'occasion de le faire vers 1968, il y a très très longtemps. À l'époque, c'était un projet de recherche, mais même s'il s'agissait d'un projet de recherche, il est très rapidement devenu un service. C'est-à-dire que nous dépendons à beaucoup d'égards tous les jours. Nous mettons notre confiance sur ce qui a été au début une exploration de cette technologie. La fiabilité à l'époque avait revêtu une importance particulière. Sur la base de cette expérience en particulier, il y a eu beaucoup de nouveautés. Nos vies ont beaucoup changé. Ceux qui ont eu la possibilité de faire des expériences par rapport à cette technologie, nous avons su qu'il y a eu de nouvelles relations à l'échelle personnelle et professionnelle grâce à Internet. Et tout cela a changé notre vie et nous a fait avoir les opinions et les manières dont nous travaillons, nous vivons aujourd'hui. Cela n'avait pas été planifié. La vitesse à laquelle ce changement a été fait a été extraordinaire. Et je parle d'une époque à laquelle le nombre de personnes concernées et le nombre d'ordinateurs était insignifiant par rapport à ce que nous avons à l'heure actuelle. À l'heure actuelle, des centaines de milliers de personnes disposent de ces moyens et cela continue à progresser. Il y a des centaines, des milliers, des millions, des milliards des personnes vont se servir d'Internet ou se servent d'Internet à l'heure actuelle. Nous avons des millions d'ordinateurs, peut-être des milliards d'ordinateurs qui sont connectés, probablement. Et la croissance s'est produite aussi dans d'autres dimensions. Cela a commencé aux États-Unis et s'est très rapidement répandu à des centres spécialisés en Europe et ailleurs dans la planète. Nous nous sommes ensuite diffusés de telle façon que cela couvre tout le monde. À l'heure actuelle, nous parvenons aux quatre coins de la planète. Nous espérons que dans l'avenir, tout le monde pourra être connecté. Nous sommes ici aujourd'hui et le fait que moi-même ainsi que tous ceux qui sont ici présents et qui regardent leur téléphone portable qui leur permet d'exécuter bon nombre de tâches. Tout cela fait partie de cette évolution. Nous sommes passés des kilobits par seconde aux mégabits et aux gigabits. Il y a beaucoup une capacité accrue et des fonctionnalités dans un seul iPhone. Par rapport à ce que nous pouvions avoir il y a 40 ans dans notre iPhone, c'est vraiment merveilleux. Une autre possibilité très importante, mais qui n'a pas été nécessairement le résultat d'une planification, est venue de ce même travail et a inauguré une tradition d'ouverture. C'était naturel pour nous qui travaillions à l'époque de sentir une sorte de collaboration, de besoin de collaboration, au lieu de sentir le besoin de travailler en concurrence. Donc nous avons célébré la participation des autres. Cette ouverture, ce sentiment d'ouverture s'est répandu aussi dans la pensée technique. Nous avions compris que nous ne pouvions pas anticiper tous les usages que cette technologie pouvait nous offrir. Nous ne pouvions pas dire ni prescrire comment seraient utilisées toutes ces fonctionnalités. Cela a été vraiment essentiel pour notre approche. Le fait de proposer et de permettre à d'autres de collaborer et de contribuer par leurs idées. Donc l'architecture du réseau original était ouverte, la structure était une structure grande. Il y avait des couches, comme vous pouvez les appeler. Nous espérions qu'il y aurait de nouvelles idées, de nouveaux services, une fois que nous pourrions les établir et déterminer ce qui pouvait être fait et ce qui ne le pouvait pas, mais aussi une fois que nous aurions compris qu'il fallait insister sur nos attentes et sur nos points de vue, puisque ce serait la seule manière de permettre que les choses se produisent, que les événements surviennent. Par le passé, le réseau mondial a été créé par des physiciens. Nous avons des options révolutionnaires comme eBay, Amazon ou Google. Il y a aussi une recherche révolutionnaire de Google. Il y a aussi Skype, Twitter et Facebook. Et tout cela vient des initiatives nées au point les moins que l'on n'aurait jamais imaginé. Mes enfants n'ont jamais utilisé ça et nous n'avons jamais pensé qu'ils auraient pu l'utiliser à Harvard. Mais en tant qu'enfants des années 60 et 70, nous apprécions la création de ces systèmes où l'on n'a pas besoin d'autorisation et où l'on n'avait besoin d'aucune planification. Bien sûr, pour tous ces efforts énormes et couronnés de succès qui ont modifié notre vie, il y en a beaucoup d'autres qui sont aussi pleins de succès, mais qui ne sont peut-être pas rangés à la même hauteur. Il y en a d'autres qui sont réussis et cela inclut nos propres échecs. Cela ne veut pas dire qu'ils ne soient pas utiles puisqu'ils ont échoué. Ils sont utiles parce qu'ils représentent l'effort des personnes qui ont couru des risques, qui ont mis leurs efforts et le fond de leur cœur pour mener à bien toutes ces tâches et qui ont contribué et aidé tous les autres de la meilleure façon. Donc, dans un sens technique et d'organisation, dans la perspective organisationnelle, les principes de la racine, les documents crus comme non RFC sont proposés, sont offerts de façon libre et gratuite et ils peuvent être consultés, ils sont disponibles pour que tout le monde puisse en faire la lecture à tout moment, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Ils ont déjà été présentés aux étudiants universitaires chinois qui ont présenté eux-mêmes des projets fantastiques. Ils ont lu ces RFC et les ont mis en œuvre. L'équipe d'ingénierie d'Internet a créé des nouvelles forces. Et si vous pensez qu'on a créé tous les protocoles nécessaires, il faut que vous sachiez qu'il y a beaucoup de personnes qui travaillent parallèlement au sein de ce groupe, au quotidien, et qui se réunissent comme nous le faisons, 3 fois par an, à différents points du monde. Ils proposent des activités ouvertes et ils ne demandent pas d'autorisation. Tout le monde peut faire partie de ces groupes de travail. On n'a même pas une charte d'adhésion. C'est simple. Les nouveaux venus arrivent dans un entourage. Ils sont inclus dans un nouveau tour d'innovation et de développement. Par ces normes, l'ICANN a été créé en 1998. Mais nous sommes relativement loin de cette tradition. Nous avons été créés pour une activité relativement petite et modeste qui consistait à coordonner le paramètre unique d'Internet, les paramètres des protocoles pour les nombreux protocoles créés par l'IETF. Il fallait aussi que nous coordonnions les adresses qui étaient utilisées sur Internet à l'époque IPv4, à l'heure actuelle IPv6, ainsi que la coordination du système autonome de nom de domaine. C'est ce qui prend le plus large de notre effort, qui constitue les noms de domaine de premier niveau. Vous allez entendre dire beaucoup de choses par rapport à cette question des domaines de premier niveau. Et nous allons bien sûr parler des grands efforts qui ont été réalisés. Je veux enfin exprimer ma reconnaissance au travail fait pendant cette organisation et en particulier le travail des organisations de soutien et des comités consultatifs qui sont la structure, le pilier de la structure des ICANN. Dans la communauté at large, le sommet de l'ACRALO aura lieu pendant cette semaine et c'est un événement historique pour lequel il y a eu beaucoup de travail qui a été fait et sur une très courte période. Donc je félicite tous ceux qui ont rendu possible cette prouesse. Pour le comité consultatif de la sécurité et de la stabilité, il y a des questions et des spécifications techniques pour l'expansion du système sur 2 modalités différentes, les noms de domaine internationalisés et le DNSSEC, qui est l'extension de sécurité pour le système des noms de domaine. Comme vous l'avez déjà entendu, le Costa Rica est maintenant à la première ligne de l'approvisionnement de la protection pour le nom des domaines sur Internet par la signature du .cr de ce domaine. Je veux donc féliciter tous ceux qui ont travaillé à cet égard qui sont parvenus à réaliser un objectif très important. C'est important non seulement pour le Costa Rica, mais aussi pour tous ceux qui cherchent à avoir un accès. Il est important en tant que signal de leadership dans la région et partout dans le monde pour ceci. Je vous félicite donc, je félicite encore une fois le Costa Rica de cette réussite et je dois dire que c'est un développement très important dans le domaine de la sécurité. Les noms de codes géographiques et le CCNSO continuent de se développer. Je crois qu'il a à l'heure actuelle 126 membres. Plus spécifiquement, il travaille sur l'inclusion du domaine .pf de la Polynésie française et sur le domaine de Timor occidental pardon, je veux reconnaître Patricio Pobletti. Je veux le remercier de ses efforts et pour son travail et pour le travail qu'il effectue depuis 2004. Et je veux le remercier aussi du travail que son prédécesseur a fait depuis 1999. Ce travail a été extraordinaire. On a consacré beaucoup de temps à cette entreprise modeste, mais que j'apprécie du fond de mon cœur. J'ai mentionné la GNSO, et bien sûr, au sein de l'organisation de soutien au nom générique, il y a l'introduction de nouveaux GTLD. C'est un projet qui est suivi par un staff consacré à ce but au sein de l'ICANN. Il s'agit de l'activité la plus large et la plus exigeante que nous avons menée jusqu'ici. Cela a impliqué un grand effort pour pouvoir avoir du succès. La période de candidature a commencé en janvier et elle se terminera en avril. Nous attendons pour voir combien de candidatures vont être présentées. Nous avons pris beaucoup de précautions par rapport à l'information parce que nous savons qu'il s'agit d'une information sensible et il y a un nombre restreint de personnes qui fait partie de ce processus. Je crois comprendre que personne parmi les membres du conseil d'administration ou du reste de l'équipe d'administration, de l'équipe d'ICANN, peut avoir accès à cette information. Si vous me demandez combien de présentations de candidatures nous avons jusqu'ici, je ne le sais pas. Je ne sais pas plus que vous n'en savez. Il faut que nous attendions donc anxieusement que ce moment vienne. Enfin, nous pensons que la transparence et la responsabilité sont des points qu'il faut respecter sérieusement. Il y a une affirmation d'engagement qui a été signée il y a quelque temps et qui implique toute une série de révisions. D'abord, la tâche de l'équipe de révision de la transparence et de la responsabilité. Le conseil d'administration de l'ICANN a accepté les 27 recommandations et nous mettons en œuvre chacune d'elles. En ce qui me concerne, je me suis occupée de l'évolution de la mise en œuvre et j'ai travaillé la main dans la main avec l'équipe pour voir comment la procédure et le processus se déroulent et je continue à me focaliser sur les recommandations qui n'ont pas encore été mises en œuvre. Nous avons ensuite l'équipe de révision du Juiz qui a présenté une version préliminaire de son rapport. Donc, j'encourage pendant cette période tout le monde à examiner les recommandations et essayer de comprendre ce dont nous avons besoin pour les mettre en œuvre. Il y a des questions de faisabilité qui doivent être sérieusement examinées. Nous avons enfin un comité de flexibilité et qui continue à avancer et de résilience. Et comme nous l'avons fait avec tous les autres efforts, nous allons continuer à faire un suivi de leur activité de très près. Notre semaine sera très productive et elle est pleine de travail. Donc, je remercie, je félicite tous ceux qui sont au Costa Rica. Je remercie aussi le peuple du Costa Rica qui nous a accueillis et qui a rendu notre travail beaucoup plus agréable. Nous sommes nombreux à être ici depuis le début de la semaine dernière. Et bien sûr, nous avons eu l'occasion d'essayer les installations. Je remercie et je félicite tous ceux qui participent, qui ont une participation à distance. Nous avons fait des grands efforts pour cette participation à distance et je suis très heureux de vous dire que maintenant, les résultats sont bien meilleurs qu'avant. Je vous félicite, je vous remercie et je vous souhaite la bienvenue à cette 43e réunion de l'ICANN. Je vous suggère de prendre quelques minutes pour voir un peu toutes les installations et les salles de réunion. il y a beaucoup d'activités prévues et beaucoup d'activités qui sont menées à bien en ce moment. Je vous remercie encore une fois. J'ai été très heureux d'être ici avec vous. Merci beaucoup.
Thank you very much, Steve, for the excellent
Merci beaucoup, Steve, de cette merveilleuse présentation. Nous allons maintenant écouter les commentaires de Raúl Echeverría, le directeur général de l'ACNIC, et une personne très importante pour le travail sur Internet. Bonjour à tous. Comme vous l'imaginez, je vais parler espagnol. Donc, je vous donne quelques secondes pour enfin vous servir de vos écouteurs. Monsieur le ministre de la Science et de la Technologie, Monsieur Alejandro Cruz, Monsieur le directeur de l'Académie nationale des sciences, Monsieur Gabriel Macaja, Monsieur le président du conseil d'administration de ICANN, Monsieur Crocker, Monsieur le président directeur général, Monsieur Rod Bergström, Monsieur Almo Glazer, mesdames et messieurs, en tant que directeur général de l'ACNIC, c'est un honneur de pouvoir participer à cette réunion de l'ICANN organisée au Costa Rica. C'est une nouvelle occasion pour les pays de l'Amérique latine pour montrer leur capacité pour accueillir ce type de réunion et pour montrer une norme de plus en plus élevée de qualité qui constitue un défi pour ceux qui organiseront les prochaines réunions. Je veux féliciter l'Académie nationale des sciences et en particulier, je serai très originale, je vais féliciter aussi M. Guy de Terracon, Jessica Calvo, toute son équipe. Le Dr Guy de Terramont est l'un des pionniers qui a été identifié ici. Il a été nommé ici comme le père de l'Internet au Costa Rica, mais moi, je me souviens de lui aussi comme de quelqu'un d'un groupe réduit de pionniers de l'Amérique latine et des Caraïbes. Nous pouvions communiquer par une liste de distribution de courriels qui n'avait pas plus de 40 ou 50 membres, et c'était le point d'où est tissu l'évolution d'Internet dans les années qui ont suivi. Donc, merci énormément, Guy, du grand effort que vous avez fourni pour tout cela. Ce n'est pas la moindre des choses que la communauté Internet se réunisse dans ce pays, un pays qui, malgré les difficultés géographiques imposées par sa géographie, a été l'un des pays les plus avancés en matière d'Internet et de société de l'information. Il y a aussi d'autres caractéristiques définissant le Costa Rica, sa vocation de paix, telle que l'a dit Madame la Présidente il y a quelques minutes, par cette décision historique et exemplaire qui a été prise il y a très très longtemps pour la dissolution des forces armées, un pays qui a fait un pas incroyable, exemplaire pour le reste de l'humanité. On a mentionné ici une autre caractéristique de ce pays qui consiste en la sauvegarde de l'écosystème et de l'environnement, la vocation de développement, de la promotion du développement, mais par le respect de l'écosystème. Cela nous permet d'établir un parallélisme important par rapport à ce que nous faisons aujourd'hui ici. Parce qu'en définitive, ce que nous essayons de faire ici, tous ceux qui sommes ici présents, nous tous, nous sommes engagés sur le développement d'Internet, mais nous cherchons aussi à renforcer et à protéger l'écosystème Internet. Pour moi et pour l'ACNIC, cette année est une année très spéciale, car c'est l'année de notre 10e anniversaire. L'ACNIC est une organisation qui, au cours de ces 10 dernières années, a énormément grandi et qui est émergée complètement soutenue par l'organisation régionale. On a une fonction bureaucratique d'adressage, mais c'est aussi un catalyseur pour l'organisation et la société de l'information en Amérique latine et aux Caraïbes. Dans cette aventure à laquelle nous avons participé pendant toutes ces années, lorsque nous regardons vers le passé, nous sommes fiers de tout ce que nous avons pu obtenir et réussir, tout ce que nous avons pu obtenir en matière de développement de la version IPv6, pour les progrès faits dans les aspects de la sécurité du réseau, le renforcement et le développement de l'infrastructure régionale, les échanges de trafic, la création de communautés, la création. L'un des principaux travaux de ce groupe a renforcé la création de communautés qui créent des synergies de plus en plus fortes. Mais plus que à cause de ce que nous avons fait, nous sommes fiers de ce que nous avons fait sur la modalité de la collaboration avec la participation de tous les acteurs régionaux. Nous avons une communauté forte dans cette réunion. Nous pouvons le voir ici parce qu'il y a un nombre très important, peut-être sans précédent dans le passé, de participants de la réunion, d'une société, une réunion à laquelle participent des membres de la société civile, du secteur commercial, des organisations techniques d'Internet et du gouvernement. Cette réunion d'ICANN est une forte occasion pour cette communauté de la région pour s'insérer dans la communauté globale. Cette réunion est une plateforme pour la rencontre des latino-américaines et que nous devons utiliser et dont nous devons tirer profit. Le docteur Crocker nous présentait toute une série d'exemples qui nous permettaient d'apprécier l'importance acquise par Internet pour toute l'humanité au cours de ces années. À l'heure actuelle, plus de 25% de l'humanité peut accéder à Internet. Même dans certains pays, ce pourcentage atteint pratiquement 100%, ce qui fait que l'Internet est devenu une réalité que personne ne peut contourner et qui a permis à tous les acteurs de plus en plus d'accorder de l'importance à ce réseau. C'est pourquoi il y a des tensions qui apparaissent au quotidien, liées aux politiques qui vont régler le développement d'Internet dans l'avenir. C'est une question naturelle. Nous devons apprendre à vivre avec cette circonstance. L'excellent discours de Madame la Présidente mentionnait certaines initiatives qui ont été l'axe et le fond des controverses et des discussions qui ont eu lieu pendant les derniers mois. Mais toutes ces tensions qui se produisent liées au développement futur d'Internet sont absolument naturelles. Elles sont en quelque sorte la preuve du succès d'Internet. Ce succès, cette réussite et les bénéfices qu'Internet a apportés à l'humanité nous montrent le succès des modèles ouverts, participatifs et multipartites qui ont été jusqu'ici la base de la gouvernance d'Internet et qui ont offert justement la plateforme appropriée qui a permis ce développement réussi dont nous parlions tout à l'heure. Par rapport à cette région, nous sommes dans une décennie de développement et des grandes opportunités pour la région de l'Amérique latine et des Caraïbes. Il y en a même qui disent que c'est la décennie pour la région. Mais pour que nous puissions profiter de ces occasions et continuer sur cette pente montante du développement, nous avons besoin d'une Internet forte et stable comme base. Nous n'avons moyen de le faire que si nous travaillons en collaboration, tous les acteurs. L'ACNIC s'est engagé avec un Internet pour tous, ouvert pour tous, pluriel, pour le plus grand bénéfice du développement humain et social et qui permette de catalyser l'exercice des droits de l'homme, de la population de tout le monde. C'est pour cela que nous invitons tous les acteurs de la communauté à travailler tous ensemble pour la consécution de ces buts. Cette organisation ICANN que nous avons créée entre tous, avec ses forums, avec ses outils de participation ouverts à la communauté, est sans doute un point de rencontre de nos communautés pour continuer à travailler dans cette construction collective. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Raoul, de votre présentation, de votre excellente présentation. Et merci d'avoir parlé de l'avancement de l'écosystème Internet. Je me sens très honoré de présenter Helmut Glaser, président, directeur et trésorier de l'ACNIC, qui est la partie prenante représentant le Brésil et qui représente le gouvernement du Brésil pour toutes les questions liées à l'Internet, non seulement la large bande, mais aussi tout ce qui concerne les aspects technologiques. Il est conseiller du gouvernement et bien sûr, c'est quelqu'un qui contribue fortement dans les groupes des parties prenantes, y compris ICANN en tant qu'organisation. Nous cédons la parole donc à Harmut. Pour différencier un peu les choses, moi je vais parler portugais, ni espagnol, ni anglais. Je m'appelle, enfin, mon nom se rapporte au comité de la CNIC et du Brésil, mais je parle en mon nom personnel et la seule responsabilité sur ce qui a été dit ne fait que me revenir. Je ne peux rendre responsable personne d'autre. Je ne parle en représentation d'aucune de ces entités qui ont déjà été mentionnées. Plusieurs points qui ont déjà été mentionnés aussi bien par Madame la Présidente que par d'autres personnes, je vais les répéter et je vais mettre l'accent là-dessus. Je vais commencer par vous dire que j'ai un rêve. I have a dream. C'était le titre d'un discours historique public prononcé par Martin Luther King, où il parlait du besoin de l'union et de la coexistence harmonieuse entre les Noirs et les Blancs. Le discours tenu le 28 août 1963 au Lincoln Memorial à Washington, D.C. et qui a fait partie de la marche de Washington pour les emplois et pour la liberté, a été un moment décisif dans l'histoire du mouvement américain pour les droits civils. Loin de mon esprit, le fait de penser à être un nouveau Martin Luther King, je n'ai pas cette aspiration, mais je suis profondément convaincue, et je le dis de façon très humble, je me présente devant vous pour défendre les principes que je considère importants et fondamentaux pour notre Internet. J'ai participé à 40 réunions de l'ICANN avec le même but, toujours avec le même but, dans la recherche d'une Internet pour tous et faite par tous. Cette réunion qui se tient ici à San José du Costa Rica est ma 41e participation. Et mes propos n'ont pas changé. Je continue à rêver et à lutter pour un Internet universel, mais vraiment universel, pour tous, et autorégulé, sans l'intervention des gouvernements ni d'autres agents externes. Je crois que l'utilisation d'Internet doit être guidée par les principes de la liberté d'expression, liberté de parole, de la protection de la vie privée des individus et du respect des droits de l'homme. Ces principes sont fondamentaux pour la préservation d'une société juste et démocratique. La gouvernance d'Internet doit être exercée de façon transparente, multilatérale et démocratique, avec la participation de tous les secteurs de la société, par la préservation et l'encouragement de son caractère de création collective. L'accès à Internet, doit être universel pour qu'il puisse servir au développement humain et qu'il contribue à la construction d'une société inclusive et non discriminatoire pour le plus grand bénéfice de tous. Il faut respecter la diversité culturelle et il faut les préserver. Il faut aussi toujours stimuler son expression sans aucune imposition de croyances, de coutumes ou de valeurs. La gouvernance d'Internet doit promouvoir l'évolution continue et la diffusion aussi large que possible des nouvelles technologies et de modèles d'utilisation et d'accès. Les privilèges et le trafic d'influence doivent disparaître. Ils ne doivent respecter que des critères techniques et éthiques. On ne peut jamais admettre des motifs politiques ou commerciaux ou religieux ou culturels ou toute autre modalité de discrimination ou de favoritisme. Le combat des délits sur le réseau doit toujours atteindre les responsables ultimes et non jamais les moyens de communication. Il faut préserver les principes majeurs de défense de la liberté, de protection de la vie privée et de respect des droits de l'homme. La stabilité, la sécurité et les fonctionnalités globales du réseau doivent être préservées de façon active par des mesures techniques compatibles avec les normes internationales et avec l'incitation à l'utilisation des bonnes pratiques. L'Internet doit être basé sur des standards ouverts permettant l'interopérabilité et la participation de tous à son développement. L'environnement légal et de réglementation doit préserver la dynamique d'Internet en tant qu'espace collaboratif. La valeur fondamentale d'Internet est une valeur sociale plus que technologique. Internet crée une ambiance de communication humaine, de transactions commerciales, d'opportunités pour partager les connaissances. Cette ambiance, cet environnement doit être ouvert et disponible pour tous, sans qu'il dépende du matériel, du logiciel, de l'infrastructure, du réseau, de la culture, de la situation géographique, des capacités physiques ou mentales, des conditions socio-économiques ou du niveau d'éducation de chacun. Le caractère universel et la diversité sur Internet doivent être maintenus et doivent être renforcés, comme nous le faisons pour la gouvernance de l'Internet brésilienne, qui est exercée sur un modèle démocratique, transparent et pluriel, où la participation des différents secteurs de la société sera garantie. Une gouvernance qui est orientée aussi par les principes de la collaboration, de la création collective, de l'éthique et des droits de l'homme. Il faut garantir aux personnes handicapées, que l'on parle d'handicap auditif, visuel, moteur ou tout autre, il faut leur offrir les conditions pour qu'ils puissent comprendre, surfer, interagir et se développer dans l'environnement du web. C'est une condition pour que ce web puisse évoluer vers une conception universelle et inclusive. L'inclusion doit atteindre aussi les nouvelles générations et le troisième âge. Il faut considérer l'éducation nécessaire pour créer de nouvelles capacités, de nouvelles compétences numériques et digitales. Internet, plus que d'avoir transformé la manière de communiquer, Internet a modifié la nature de nos rapports sociaux. L'Internet, dans sa plénitude, est un espace de nouvelles rencontres, des transactions commerciales, des rapports personnels qui se produisent bien des fois sans que les personnes soient les unes en face des autres. La confiance sur l'Internet est directement associée au droit à la plus large liberté de parole, d'expression, de recherche et de navigation par l'utilisation de normes et de modèles technologiques garantissant la protection de la vie privée et la sécurité pour tous les utilisateurs. L'Internet a été configuré comme un espace de débat, de clôture de certains services propriétaires, d'invasion de la vie privée et de la rupture de la neutralité. Nous sommes face à un défi. Nous devons créer un espace de consensus autour de ces principes pour que l'Internet continue d'être une plateforme ouverte et universelle. Je vous souhaite, à vous tous, que nous puissions réaliser des réunions avec des discussions de haut niveau qui nous permettent de prendre des décisions pour défendre un Internet de tous et pour tous. J'espère que cette rencontre de San José du Costa Rica sera un jalon sur une marche basée d'un Internet basé sur des principes des libertés d'expression, de protection de la vie privée des individus. C'est un mouvement décisif, un moment décisif dans un mouvement décisif dans l'histoire d'un mouvement international d'inclusion digitale pour les plus de 7 milliards de personnes qui habitent cette planète. Voilà mon rêve. Merci beaucoup.
Wow.
Wow. Wow. Vraiment, vous êtes un maître, hein? Chapeau. Chapeau pour votre discours. Vous êtes vraiment un maître, hein? Merci infiniment, mon cher collègue, pour votre discours. On dit souvent que la communauté Internet est un écosystème et c'est une façon efficace de parler de sa complexité et son interdépendance. Cette semaine, la communauté Internet se réunit ici au Costa Rica où des exemples d'écosystèmes naturels et complexes sont abondants. Rares sont les endroits dans la Terre, comme le Costa Rica, qui possède une telle variété de plantes, d'animaux et d'insectes. Malgré sa taille relativement petite, ce pays abrite 5% des espèces du monde, inclut plus de 100 espèces de papillons. La forêt tropicale est terriblement variée, avec de grenouilles aux yeux rouges, des grands arbres et des vignes, ainsi que des oiseaux aux plumes émeraudes et turquoises perchés sur ses branches. En fait, il y a tellement de plantes et d'animaux au Costa Rica que les scientifiques ne sont pas parvenus à tous les nommer. Ce qui est moins évident, c'est leur interdépendance. Le retrait d'un habitant de l'écosystème déclenche des changements importants au niveau de tout l'écosystème. Il est facile d'appliquer cette logique à l'Internet. L'interaction complexe entre la technologie, les organisations et les individus constitue le cœur d'Internet. Il y a moins d'un an, petite manifestation dont les photos ont été publiées sur Facebook ont déclenché des manifestations massives au Moyen-Orient qui ont eu une des conséquences terribles sur le futur de la région dans son ensemble. Cela démontre clairement le pouvoir de cet écosystème. Le monde bouge vite, les changements surviennent souvent de façon inattendue. Mais pour un modèle de décision multipartie prenante, le modèle de prise de décision multipartie prenante est parfois lent, parfois terriblement lent. Les structures qui vont du haut vers le bas peuvent agir de façon plus rapide, mais ne permettent pas à tout le monde de s'exprimer. Nous devons permettre à ces voix de s'exprimer. C'est pour ça que notre modèle est construit sur le consensus. Il va du bas vers le haut et donne la possibilité à des milliers de personnes de s'exprimer. Ce modèle a été créé pour protéger la sécurité et la stabilité du système de noms de domaine. Il est adaptable, décentralisé et très résilient. Ce modèle doit rester flexible et résilient au cours des prochains mois et des prochaines années. L'ICANN est dans une période de changement profond avec d'importantes questions à l'horizon. Regardez ce à quoi nous sommes confrontés. Un programme de noms de domaine génériques de premier niveau qui grandit, mais qui est encore jeune. Une décision sur la rénovation du contrat IANA, des préoccupations croissantes sur la cybersécurité, un panorama géopolitique global de plus en plus changeant, et bien sûr un nouveau PDG. Et on est sûr que les changements continueront de se produire. Les pressions de l'organisation sont d'ordre politique, éthique, financière, géopolitique et opérationnel. Tout cela représente un énorme défi pour une petite organisation en transition avec moins de 150 membres qui couvrent des activités dans le monde entier dans une époque où l'Internet se répand de façon très rapide. Sommes-nous prêts pour relever ces défis? Oui, tout comme nous l'avons fait auparavant. Le programme des nouveaux GTLD a occupé une grande partie de notre temps, de notre énergie et de nos ressources au cours des derniers mois. Le développement de ce programme compliqué et qui possède plusieurs couches a demandé une planification stratégique et financière très importante, avec le souci de maintenir l'indépendance et l'objectivité vis-à-vis des candidats. L'Internet a toujours été un terrain fertile pour l'innovation et l'ICANN s'est toujours engagé à alimenter ce potentiel en créant plus de compétition et plus de choix pour le consommateur dans le domaine des non-domaines. On ne peut pas prédire l'innovation, mais on peut créer un environnement de nature à l'encourager. Voilà l'objectif primaire du programme des nouveaux GTLD. En mettant en place ce programme, nous avons rencontré des difficultés au niveau de la planification et nous avons voulu nous assurer et nous sommes parvenus à ce que la période de candidature s'est produite sans inconvénient. Jusqu'à hier soir, on avait 254 utilisateurs enregistrés dans le système de candidature en ligne. Chaque candidat peut soumettre plusieurs candidatures au GTLD, de manière à ce que lorsque la période de candidature sera close le 29 mars, on ne connaîtra pas encore le nombre total d'utilisateurs, mais on aura une petite idée de combien de candidatures on pourrait attendre pour le 12 avril. On a mis en place un système opérationnel pour assurer un processus pacifique de révision et d'évaluation, qu'il s'agisse de 30 candidatures ou de 3000. Une nouvelle phase de travail commence et nous sommes prêts pour travailler dans cette nouvelle étape. Une grande partie du programme a incorporé l'incorporation de la protection. On a travaillé avec des experts en matière de propriété intellectuelle pour le développement de politiques afin de créer des mécanismes de protection des marques qui sont maintenant inclus dans le programme. L'espace des nouveaux GTLD améliorera significativement la protection qui a été développé par le biais de ce processus exhaustif. Nous sommes en train de créer un système d'annulation rapide des noms-domaines qui vont à l'encontre de la loi. Nous avons mis en place un bureau central de marque, entre autres choses. Depuis le mois de novembre, un groupe de volontaires de la communauté a consacré beaucoup de temps et d'efforts pour aider l'ICANN à travailler sur la mise en place du bureau central de marque. Nous en sommes reconnaissants. Le grand jalon qui suit, c'est la publication des nouveaux GTLD, des nouvelles chaînes GTLD. Il faudra donc être conscient que tous les titulaires de marques déposées devront comprendre les pas à suivre. La possibilité de contester est une protection fondamentale, non seulement pour les titulaires de marques, mais aussi pour tous ceux qui veulent se porter candidat pour un GTLD ou qui se sentent menacés dans leur représentation de la communauté. Même si une organisation n'a pas présenté une candidature, il est important de faire attention pour voir quels sont les droits et les intérêts qui peuvent être lésés. Nous remercions aussi le travail du groupe de travail de soutien aux candidats ainsi que le conseil d'administration pour leur soutien au lancement de programmes de soutien aux candidats au nouveau GTLD qui a pour but de fournir de l'assistance financière et non financière aux candidats pour qu'ils puissent profiter des opportunités offertes par les nouveaux GTLD. Il a été très satisfaisant de voir la communauté qui a mis en place ce programme. 15 organisations individus ont déjà avancé et ont pu fournir de l'assistance gratuite dans la rédaction des demandes, l'infrastructure d'IPv6, conseil par rapport au DNSSEC et la mise en place des domaines, noms de domaines internationalisés. Un panel de volontaires indépendants décidera quels sont les candidats qui pourront bénéficier de ce soutien financier. Le panel joue un rôle important dans ce soutien aux candidats. Les candidatures sont acceptées vers la fin mars. Les initiatives des IDN se renforcent. Le processus de fast-track des IDN CCTLD continue de soutenir les pays éligibles et les territoires. Actuellement, il y a 31 IDN CCTLD dans la racine qui représentent 21 pays et territoires. Et le programme des nouveaux GTLD donnera encore plus d'opportunités aux organisations de s'étendre par le biais des IDN GTLD. Élargir le système de noms de domaine en permettant l'utilisation de chaînes comme l'arabe et le chinois au niveau générique montre la quantité de personnes qui dépendent de cela. Nous avons complété les deux premières phases de ce processus de variante IDN. Plus de 60 experts au monde entier participent dans des études de cas de variantes qui sont dans leur première étape et participeront aussi dans l'étape 2. L'étude a illustré clairement qu'il n'y a pas un seul problème de variante, mais plutôt un éventail de cas de variante que nos experts ont commencé à classifier. Nous pouvons mieux voir la complexité de ce problème et commencer à les résoudre. Voilà l'important travail qui nous reste encore à faire et sur lesquels nous devons nous pencher et réfléchir lorsque nous entrerons dans la prochaine phase. L'ICANN s'attaque à la question des variantes IDN, tout comme il s'attaque à d'autres aspects importants de la communauté. Avec l'aide des experts, nous continuerons d'étudier ces problèmes, de les résoudre en tenant compte des points de vue différents. Mais surtout, nous sommes toujours engagés à maintenir un Internet sûr, stable et unifié. Comme je l'ai dit avant, le programme des nouveaux GTLD a été le focus. L'ICANN s'est focalisé sur ce programme au cours des derniers mois, mais il y a un effort clé. Depuis qu'on s'est réunis à Dakar en octobre, il y a eu des équipes de personnel et des bureaux d'enregistrement qui se sont réunis pour améliorer les dispositions de l'accord d'accréditation des bureaux d'enregistrement. La guerre contre la cybercriminalité et la fraude DNS se tient 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, un travail que l'on fait avec la communauté qui reconnaît que l'application de la loi a besoin d'outils spécifiques, dont une information correcte pour pouvoir opérer certains sites web. J'ai été surpris par le temps et l'effort consacré à cette initiative. Il a été démontré que les bureaux d'enregistrement comprennent bien quel est leur rôle dans la lutte contre la cybercriminalité. Ces bureaux d'enregistrement ont fait preuve de grande volonté pour résoudre ces problèmes rapidement. Nous avons beaucoup avancé dans plusieurs domaines. Les négociations vont permettre d'incorporer des changements aux 12 recommandations d'application de la loi qui incluent les exigences au niveau de la vérification de WIS, les points d'information pour informer des abus, des fraudes de la part de bureaux d'enregistrement, et on a augmenté aussi les obligations liées à la privacité, aux services de représentation et aux mécanismes d'application de la loi et de conformité. Les négociations comportent une discussion sans précédent pour améliorer l'exactitude des données contenues dans le WIS. La longue histoire de l'ICANN et son travail sur le WIS illustrent clairement combien il a été difficile de se mettre d'accord sur ce problème. J'espère que la communauté pourra trouver la solution qui pourra équilibrer les besoins pour freiner la cyberdélinquance et respecter la liberté d'expression, que l'on soit un utilisateur d'Internet, un bureau d'enregistrement ou un registrant. Nous vous encourageons à participer de cette discussion. L'adoption globale du DNSSEC est une priorité pour l'ICANN. C'est un exemple classique de l'approche du bas vers le haut de multiparties prenantes. Et tout comme la participation internationale du IETF et les opérations sur la racine, on a pu tenir compte des préoccupations du DNSSEC, qui a aussi agit en tant que catalyseur pour le développement d'applications de sécurité innovatrices pour arrêter la cybercriminalité. Les fournisseurs d'Internet, les bureaux d'enregistrement et les registrants font des efforts pour fournir un produit amélioré à leurs clients. Nous avons reçu des rapports sur des attaques à la DNS faites par Comcast. Il y a des commentaires de la part des agents gouvernementaux qui mettent l'accent sur la valeur du DNSSEC. On a demandé aux ISP qu'ils adoptent la validation du DNSSEC et c'est un effort qui demande la collaboration de tous. Ici, à Saint-Crosset, les membres de l'organisation Ad Large pour l'Amérique latine et les Caraïbes de l'ICANN, ou l'ACRALO, qui a déjà 52 vies, ont commencé à mettre en place des activités dans une session de création de capacités, l'Assemblée générale, pour ses membres. Le ministre de la Science et la Technologie, Alejandro Cruz, et Raúl Echeverría, le CEO de la CNIC et le président de l'ISOC, seront les orateurs principaux dans le showcase prévu pour ce soir. Tel que l'AFRALO l'a fait pour la grande réunion du Dakar, nous continuerons d'offrir la formation et des opportunités de networking pour aider les membres à s'engager dans la communauté ICANN. Les résultats d'AFRALO ont été magnifiques. La participation aux téléconférences s'est accrue de 30% depuis Dakar. En tant que membre de la coalition d'utilisateurs d'Internet du Nigeria, je dois dire que ces séances ont été une fenêtre qui a permis de voir et de comprendre les questions traitées par l'ICANN et par Adlarge. Et j'espère que l'ACRALO sera couronné d'autant de succès. Merci au président José Francisco Arce et le secrétaire Dev Anand Tilkasingh pour leur leadership. Pendant de très nombreuses années, l'ICANN a fourni des services sur IPv6 et nous figurons parmi les 900 opérateurs de sites web qui ont rejoint la société Internet et leur campagne pour l'adoption de l'IPv6 dans la journée de lancement officiel du IPv6 le 6 juin. Trois des sites les plus populaires du monde, Facebook, Google et Yahoo, nous ont rejoints, ainsi que des dizaines d'opérateurs de réseau et les 5 registres régionaux Internet. Si vous ne l'avez encore fait, je vous encourage à le faire, à nous rejoindre dans cet effort et pour que vous diffusiez qu'il s'agit de l'année de l'IPv6. Des changements importants auront lieu au niveau de l'ITU, au niveau des réglementations qui seront mises à jour en décembre, ainsi que les recommandations sur la réforme de forum de gouvernance Internet qui est considérée par les Nations Unies. Parmi ces activités, on ne doit pas perdre de vue notre rôle en tant que gardien d'une Internet interopérable, stable et sécure. Nous sommes responsables de la prochaine génération d'utilisateurs et de faire en sorte que l'écosystème puisse évoluer. On doit le faire en reconnaissant qu'on est interdépendants les uns des autres. C'est une étape fabuleuse, un moment d'action, un moment de promesse et un moment d'incertitude. Un moment d'opportunité, mais en même temps un moment de menace. Une menace significative est dans la structure même de l'ICANN. On considère le comité de nomination comme un exemple. Préserver la capacité de l'ICANN pour agir de façon indépendante en vue de l'intérêt public est fondamental pour le futur de l'Internet et de cette institution. En tenant compte de la représentation large au sein de la gouvernance de l'ICANN, l'inclusion de représentants de l'industrie dans le conseil d'administration et dans notre travail, sert à soutenir le modèle de multi-parties prenantes. Nos moyens pour nous assurer l'indépendance, depuis la formation de l'ICANN, le nombre d'utilisateurs Internet s'est accru et passé de 146 millions à 2 milliards 300 000 millions dans le monde entier. Les conséquences ont été drastiques. Je pense que les ICANN, son conseil d'administration et la communauté ICANN doivent être à la hauteur de cette croissante diversité ainsi que de la diffusion d'Internet. Nous devons chercher l'opportunité de parvenir à une bonne gouvernance et à une bonne transparence pour que cette ressource puisse agir en vue du bien commun. Dans le contexte adéquat, comment peut-on le faire si le leadership vient de l'industrie des noms de domaine et doit être coordonné de façon indépendante? Il y a encore plusieurs ordres du jour conflictuels au sein du conseil d'administration qui font que le PDG doivent respecter ces exigences nécessaires, ce qui rend le travail un peu frustrant parfois. On a fait des grands progrès depuis le lancement d'Internet au niveau de l'éthique à Singapour. Nous avons eu des réunions avec le sous-comité de gouvernance du conseil d'administration pour déterminer quels étaient ces conflits. Et à l'issue de ces réunions, il y a eu des moments où les membres ayant des potentiels conflits ont abandonné ces réunions. Je nous félicite pour ces changements et je crois que ces conflits peuvent donner lieu à des chose positive. C'est important pour pouvoir répondre aux exigences éthiques de l'ICANN et pour assurer cette mission en faveur de l'intérêt public. L'ICANN a toujours été béni par les leaders qui y ont travaillé, qui ont une expérience technique exceptionnelle. Il nous faut maintenant consolider et raffermir notre position parmi les organisations du monde pour mieux servir l'intérêt public. Pour ce faire, nous devons agrandir la base, la source dont proviennent dont sont issus nos membres. C'est important d'avoir des membres de la communauté au sein des noms de domaine, mais il est important d'éviter toute perception de conflit. Il est important que les voix externes à l'ICANN, les voix de l'industrie puissent s'exprimer et puissent avoir leur place dans nos réunions. Le comité de nomination a été créé pour assurer l'indépendance et la diversité par le biais d'une représentation industrielle équilibrée avec des directeurs indépendants qui représentent une grande quantité de points de vue. Comment on est arrivé à ce défi? Je crois que les candidats proposés par le NOMCOM doivent être complètement indépendants et ne pas présenter des conflits. Pour assurer une élection, un choix indépendant de directeur, il serait souhaitable pour les membres du NOMCOM qu'ils proviennent des groupes de parties prenantes, de parties intéressées extérieures, pour pouvoir prendre différentes positions. Le NOMCOM doit être libre de conflits et doit être financièrement indépendant de l'industrie de noms de domaine. C'est simplement une idée claire qui doit être mise en place. Assurer un haut degré de professionnalisation des candidats qui doivent d'ailleurs avoir une expérience dans d'autres organisations, qu'elles soient gouvernementales, commerciales, des expériences comparables dans des organisations comparables en taille, complexité, comparable à l'ICANN. Ce processus de sélection n'est pas seulement souhaitable, mais impératif. De façon idéale, on devrait mettre en place un comité de nomination sans conflit avant que le cycle de nomination commence. Nous avons poursuivi nos efforts pour renforcer le travail destiné à trouver une solution à ces problèmes en ayant des experts internationaux respectables qui puissent nous conseiller sur le code de conduite de l'ICANN. Cette équipe a plusieurs membres qui sont reconnus pour leur contribution significative au niveau de l'éthique. Un changement important pour la personne qui va me succéder, ce sera de retrouver sa place dans cet environnement et pouvoir piloter tout en clarifiant la relation entre le conseil d'administration, le personnel et la communauté. J'ai partagé mon point de vue sur les capacités que doit avoir un nouveau PDG. J'ai engagé le conseil d'administration, je me suis engagée moi-même à faire de mon mieux pour que la transition puisse être couronnée de succès, y compris le fait d'aider mon successeur pour qu'il puisse bien comprendre la complexité des relations existantes dans les différentes organisations. Je pense que le nouveau PDG devra accepter la place qu'occupe l'ICANN dans le monde. La place l'ICANN occupe aujourd'hui une place beaucoup plus importante dans l'histoire au Brésil, en Chine, en Inde, au Qatar, en Russie, en Turquie. Cette organisation est maintenant connue et reconnue et respectée, ainsi que bienvenue au plus haut niveau. Il suffit d'observer la participation de la présidente Chinchilla à cette réunion en tant qu'exemple. Nous avons des organisations telles que la Croix-Rouge, Interpol, l'Organisation des États américains, l'OCDE, le SWIFT, l'Union postale universelle et le Forum économique mondial, dont l'ICANN est un partenaire et un collaborateur engagé à mettre en place une mission publique commune. Cette mission publique reflète notre travail au niveau mondial. À travers notre affirmation d'engagement, le gouvernement des États-Unis n'est plus le superviseur de l'ICANN et du système de noms de domaine. Maintenant, c'est le monde entier. Par le biais des noms de domaine internationalisés, des milliers d'utilisateurs pourront avoir accès à l'Internet et à des chaînes dans les principales langues. L'ICANN est un participant respecté dans les efforts de sécurité, de cybersécurité, renforcés par l'introduction du DNSSEC. Notre engagement est démontré par notre collaboration avec des organisations de sécurité pour pouvoir faire face aux menaces du DNS et nous préparer pour les menaces futures. Nous sommes encouragés de voir cette collaboration entre les membres de la communauté. L'ICANN est reconnue pour sa professionnalité, par son professionnalisme, sa capacité et sa connaissance technique. Et cette reconnaissance existe aussi au niveau interne. Notre personnel est composé par des personnes issues de 30 nationalités. On parle 35 langues au sein de notre organisation. Notre équipe exécutive a un vice-président, a des vice-présidents régionaux qui travaillent au plus haut niveau du gouvernement et de la société civile dans leur région. Ces talents mondiaux incluent Matson Hickson, que vous connaissez pour son engagement dans l'ICANN, qui nous rejoint aujourd'hui en tant que vice-président pour l'Europe. Nous allons donner la bienvenue à Monsieur Nigel Hickson. Dr. Sharon Lee, notre nouveau vice-président pour l'Asie, qui vient de CINEC, de CNIC, et qui est la liaison entre l'Asie et l'ICANN. Et nous avons aussi Rodrigo de la Parra, en tant que vice-président pour l'Amérique latine et les Caraïbes. Je ne vois pas. Peut-être qu'il est pas si devant. Nous lui souhaitons la bienvenue. Ils sont la démonstration de notre engagement vis-à-vis de l'internationalisation et l'ICANN s'enrichit de leur présence. Il y a un changement plus significatif au niveau de notre philosophie. Nous sommes globaux, mondiaux, au niveau de notre essence, de notre vie quotidienne, dans des réunions publiques comme celle-ci et dans nos opérations et nos communautés. Nous sommes globaux, mondiaux. Quand je suis arrivée, on me demandait souvent qu'est-ce que c'était que cette organisation? Qu'est-ce qu'elle faisait? Pourquoi était-elle importante? C'est rare que j'entende ce type de questions. L'importance de l'ICANN est claire. Son rôle est clair. Sa place dans la scène mondiale est claire. Tel que j'ai dit au comité de sélection du CO, il y a des qualités qui sont importantes. Celles-ci, c'est le courage, la vision, la globalisation, la vision stratégique, le leadership, la résistance, l'intégrité, le dialogue direct et un engagement fondamental pour parvenir à un Internet sûr, stable et unifié. Celui qui va me succéder devra posséder ces compétences et devra être capable de préserver l'ICANN et la communauté, ainsi que les réussites que nous avons pu avoir, tout en maintenant les standards. Ce ne sera pas un travail facile, mais ce n'est pas un travail impossible. Moi, j'adore les défis, tous les défis qu'on a eus et ceux qu'on aura à relever dans l'avenir. On a eu beaucoup de travail, il y a eu beaucoup de discussions, beaucoup de débats, beaucoup de collaborations, comme ici, au Costa Rica, dans cette réunion numéro 43. Merci.
And with that, we conclude.
Et ainsi, nous déclarons cette séance close et nous avons continué avec notre travail de la semaine. Bon travail.